Qui a le droit de mentir? C'est une vraie question qu'on se pose depuis qu'on est tout petit. Hein. Qui a le droit de mentir en réalité sinon celui qui est plus grand, plus fort, plus puissant? L'adulte ou le dominant qui s'arroge ce droit tout en nous sommant de filer droit, d'être clair comme de l'eau de roche, voire carrément transparent. Seulement voilà, depuis qu'on est en âge de raconter des histoires, on les grille volontiers les mensonges et on prend plaisir à les griller. Ceux qui sont délibérés, ceux censés nous protéger, ceux qui prennent l'excuse, vous savez, de l'omission. Ce dont on sait très bien qu'on nous a pas tout raconté, du secret de famille, plus ou moins bien maquillé, jusqu'au mensonge d'État, il y a une certaine jouissance depuis toujours à essayer de mettre à jour les petits arrangements avec la vérité. Une jouissance qui renvoie au jeu de l'enfance et qui est l'une des raisons pour lesquelles on rêve d'être avocat, par exemple, ou détective, ou journaliste. Moi, c'est mon cas. Regardez ce matin, tiens. Regardez comme je traque celui qui est devant moi. Sa façon de respirer, de bouger un tout petit peu le bras, là. Ses suspects de tenir son café, sa façon de déglutir un petit peu trop saccadé, son pouls que j'aimerais toucher, sa voix qu'il me tarde d'entendre parce que je sais très bien qu'elle le trahira. Vous avez le droit de mentir, à condition de savoir qu'il y aura toujours des enfants pour essayer de vous débusquer.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui me dira-t-il toute la vérité? Il est écrivain, auteur à succès du Zèbre, de L'île des Gauchers, de Fanfan, des gens très bien. Le roman vrai d'Alexandre, c'est le titre de son nouveau livre, un livre d'aveux, dans lequel il revient sur son parcours d'homme et d'écrivain en faisant tomber à peu près tous les masques. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Qui ment délibérément autour de vous, tiens?
Dans ma vie, quasiment tout le monde.
Tout le monde.
J'ai grandi dans un monde où le réel était absolument impossible.
Et c'est un écrivain qui parle.
C'est-à-dire que quand j'étais enfant et que j'allais voir mes grands-parents, on me disait qu'on était en Suisse parce que le lac était beau, que l'air était pur et que le chocolat était très bon. On me disait pas qu'on était là parce que grand-père aurait été fusillé en tant que directeur de cabinet de Pierre Laval pendant la guerre, s'il avait été en France en 45.
Et ça prédestine au mensonge, le sien?
Quand il y a un énorme mensonge, il y en a mille. Ça fabrique des familles qui carburent à l'irréel. Ça fabrique des scénaristes, comme mon père qui a écrit 120 films. Mais mon père meurt jeune, et mon oncle se pend, et mon demi-frère se tire une balle dans la tête.
Ça fabrique aussi des écrivains, comme vous.
Pour compenser, pour réécrire. Parce que, à un moment, quand le réel n'est pas possible, vous réécrivez le réel. Et vous devenez un faussaire.
Alors, un roman vrai, Alexandre Jardin, pour reprendre le titre de votre livre, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, roman vrai?
J'ai écrit des livres dont le roman des Jardins, qui était un tissu de fiction.
Un roman familial?
Oui, mais qui était une fiction. J'ai fabriqué la famille dont j'avais besoin. Parce que le réel était impossible, quoi. J'en ai eu besoin, j'ai eu besoin de persuader les autres, j'ai eu besoin de courir sur des plateaux télé ou de radio pour faire croire que c'était vrai, pour m'en persuader.
Et vous qui avouez volontiers avoir passé votre vie à mentir, comment est-ce que vous pouvez espérer qu'on vous croit ce matin? Pensez que cette posture de celui qui dit la vérité puisse être perçue autrement que comme un nouveau masque?
Je pense que tous les cyniques le croiront. Parce que le cynique ne peut pas imaginer que quand on retire un masque, il y a autre chose qu'un masque.
Est-ce que c'est possible d'être écrivain sans revêtir de masque?
Dieu merci, je sais qu'aujourd'hui que c'est possible. Et que c'est peut-être le début de la littérature.
Alexandre Jardin, dans votre vie, quand est-ce que vous avez commencé à mentir, en fait, à raconter des histoires, à enjoliver le réel, à le rendre plus grand que nature? Vous vous souvenez?
Radicalement, j'ai pris un billet pour une vie merveilleuse au cœur du drame à 15 ans, lorsque mon père meurt. On m'a expédié tout seul au fond de l'Irlande, je me suis retrouvé... Le lendemain même de la messe d'enterrement, j'ai essayé de me flinguer. J'ai raté, on m'a récupéré, et j'ai menti à tout le monde. J'ai dit que je n'ai pas dit que mon père était mort pendant tout l'été. Et puis j'ai commencé à faire une petite liste. J'avais peur que mes rares souvenirs avec lui disparaissent. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup.
Alors on va y revenir, parce que c'est ce moment...
Et je l'ai inventé.
...qui fait de vous aussi un écrivain, Alexandre Jardin, ce moment d'Irlande. Mais d'abord, votre plus gros mensonge de toute votre vie, ce serait quoi, à votre avis?
Le type qui éclatait de rire sur les plateaux télé. De manière... avec une espèce de rire mécanique grotesque.
Vous n'avez pas envie de rire ce matin?
Non, pas vraiment.
Vous riez plus ?
Si, mais vraiment. Lorsque ça m'arrive. Et ça n'a rien à voir, un rire réel avec un rire de défense.
C'est quoi la différence ?
C'est qu'on est présent ou absent. Et c'est tout le problème du mensonge, c'est que ça fait de vous un absent. Un absent, et quand vous êtes absent de votre vie, vous vous dévitalisez, vous produisez de la littérature, mais vous mourrez.
Et puis on fuit aussi, j'ai l'impression. On fuit, on n'aborde pas vraiment les choses importantes, les traumatismes, les souffrances, cette capacité à éluder le réel. C'est ça que vous mettez à jour, cette capacité que vous avez eue pendant longtemps à tout mettre de côté et à pas se confronter.
C'est tout le cœur de mon livre.
Autour de quel silence, en fait, vous vous êtes construit ? Le silence familial ?
Tout a été non-dit. Lorsque ma mère vit avec plusieurs hommes, qui ont leur chambre à la maison, évidemment qu'ils sont jaloux. Mais sauf que pour rendre les choses possibles, ils ne le montrent pas. Donc la jalousie disparaît du réel. Vous êtes dans un monde irréel. Quand mon père meurt, on ne m'a rien dit. Du jour au lendemain, il meurt. Donc je me suis construit une vie complètement irréel, jusqu'à même mon deuxième mariage. C'est une scène de mon livre. Je me suis marié dans un théâtre. Je n'ai pas vu que je jouais. Les gens qui étaient dans la salle le voyaient. Je ne le voyais pas. Ma mère m'a dit récemment, mais enfin chérie, tu t'es marié dans un théâtre. Donc, à un moment, vous êtes obligé d'arrêter ça, aussi parce que votre corps vous rattrape. C'est-à-dire, quand vous menez une vie d'absent, vous produisez des livres, pire que tout, les livres marchent. Donc le public vous confirme que vous avez le droit de délirer.
Parfois.
Oui, mais c'est d'une toxicité rare. Et vous dépérissez. Et votre libido s'en va.
Parce vraiment
que, mais oui, parce que l'amoureux idéal que je produisais avec mes livres et auquel croyaient une grande partie de mes lecteurs, en réalité, ils baisaient avec parcimonie. Parce que mais parce que le mensonge vous retire votre vitalité. Donc un jour, il faut recommencer à baiser, à aimer la vie, à la bouffer.
Pour autant, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on dit la vérité, Alexandre Jardin ?
De perdre toutes ses défenses. Je veux dire, est-ce que vous imaginez une seconde ? Vous allumez votre télé, vous voyez DSK qui, au lieu de dire des conneries, dit « je suis fort en économie, pour y avoir besoin de moi, j'ai pas violé la fille, par ailleurs, j'aime partouzer, ma sexualité est épanouie, je baise comme ça, je vous le souhaite à tous. » Or, il a pas dit ça. Pourquoi ? Parce qu'il se défendait, il avait peur de souffrir. Et à la radio, 9 fois sur 10, vous entendez des rôles. Toute l'époque est faite de rôles.
Oui, c'est ça. C'est ce qui est fascinant hein, dans votre livre aussi. C'est, j'ai l'impression que ça dit aussi quelque chose de notre époque. Une époque où la transparence serait devenue une sorte d'idéal, où tout le monde semble à tout prix vouloir se confesser, faire des aveux, se montrer tel qu'il est, se mettre à nu. Sauf que c'est pas vraiment vrai.
Sauf que on a un président qui a été produit par une boîte de prod. Mais pourquoi ? Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'on est ce peuple-là pour l'instant. Vous allez sur Facebook, il n'y a pas une photo réelle. Tout est retouché. C'est un casting pour Hollywood. Nous sommes en... J'écris ce livre autant pour sauver ma peau, pour m'évader du mensonge, de la fausseté, que parce que je suis pas d'accord avec cette époque. On est en train de faire n'importe quoi. Tout ce que vous entendez, ce sont des personnages. Vous pouvez citer tous les noms des gens connus. Ils sont absolument enfermés dans des personnages, et 9 fois sur 10, et vous le savez parfaitement, vous connaissez vos collègues, le nombre de journalistes qui sont des personnages, et qui posent des questions de personnages à d'autres personnages, mais sauf que les gens qui nous écoutent en ce moment, dans leur bagnole, ils le voient, ils l'entendent.
C'est très grave ça, oui. D'être un personnage.
Oui, ça dévitalise. Quand on pleure, il faut que ce soit vrai.
Passer aux aveux, c'est pas n'importe quelle expression, Alexandre Jardin, c'est qu'on se sent coupable, vous vous sentez coupable de quoi ? En fin de compte.
Je voulais pas léguer à mes enfants un papa Pinocchio. Il faut pas faire ça. Parce que eux, ils le voyaient, forcément. Mes proches le voyaient. Ils savaient très bien que quand j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Zubial sur mon père, que du premier chapitre, le premier chapitre est faux. Le deuxième est faux. Le troisième est faux. C'est juste un père dont j'ai besoin. Mais eux le voient. Donc, à un moment, vous devenez en danger.
Il est en train de vous quitter, ce sentiment de culpabilité. Vous êtes en train de le perdre, là.
Oui, mais ça fait un petit peu peur au moment où le bouquin est imprimé et distribué dans des vraies librairies, où il y a des vraies personnes qui vont regarder. Vous perdez vos appuis. Et je vais foncer vers une autre littérature, à partir de ce roman vrai.
Ah ça, vous allez nous raconter. Mais avant tout, celle qui est un personnage et qui est coupable dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité est vraiment sale. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 7 juin ?
Je pense que l'écriture, je suis engagé dans mon écriture maintenant, dans mes livres, dans les mots. Écrire, c'est le premier niveau de l'action.
Après deux tentatives, l'écrivain et ancien diplomate Daniel Rondeau a été élu hier à l'Académie française, au fauteuil de Michel Déon, disparu en 2016. Grand voyageur, boxeur, ancien maoïste, l'homme de lettres de 71 ans est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont Mécanique du chaos, récompensé en 2017 du Grand Prix du roman de l'Académie française. Plus surprenant, on l'avait aussi vu aux funérailles de Johnny Hallyday, dont il était l'ami de longue date, prononcer une oraison funèbre, élégante et grave à la Madeleine. Elle est belle, Daniel. Voodoo Child, le pianiste de blues légendaire de la Nouvelle-Orléans, Dr. John, est mort hier, il avait 77 ans. Personnage haut en couleur de la scène américaine, compagnon occasionnel des Stones, de Van Morrison ou de James Booker, ce musicien à la voix rauque avait introduit en Louisiane le rock psyché dans les années 60, puis le funk dans les années 70, adepte du métissage musical, mixant blues, pop, boogie-woogie, il restera l'un des grands maîtres du rock voodoo, récompensé de plusieurs Grammy et intronisé en 2011 au Panthéon du rock'n'roll So Long Doc.
C'est une invention de Léonard de Vinci.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
La scène déménage, jamais exposée hors des musées du Vatican. La tapisserie représentant le dernier repas du Christ et reproduisant la célèbre fresque de Léonard de Vinci est exposée pour la première fois au château du Clos-Lucé, à côté de Tours. Restauré pendant 14 mois, le chef-d'œuvre de soie et d'argent est visible sous verre jusqu'en septembre prochain, dans le cadre de l'anniversaire des 500 ans de la mort du maître italien. Haute de plus de 9 mètres, longue de 5, elle avait été tissée en 1515 pour François Ier. Stylé.
Il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes.
Enfin, ouf, c'est vendredi, on monte le son, on sourit. Dans les bacs aujourd'hui, on s'envoie en l'air avec Nekfeu, le prodige du rap français qui fait son grand retour avec les étoiles vagabondes, un troisième album studio plus mélancolique qui s'accompagne d'un film. On branche Tim, la livraison posthume d'Avicii, le jeune DJ suédois disparu en avril 2018. Et sinon, on se laisse tenter par paraître ou ne pas être le nouveau Maxime Le Forestier Maison, entièrement enregistré dans sa bicoque du Loir-et-Cher, rock'n'roll. Et le romancier Alexandre Jardin, invité de Boomerang ce matin pour le roman vrai d'Alexandre, un livre, on le disait, dans lequel vous interrogez sans cesse votre rapport à la littérature. Comment est-ce que vous êtes devenu écrivain ? Je crois que ça vous est un petit peu tombé dessus et je crois que ça a à voir avec ce voyage en Irlande, Alexandre.
Comme j'avais très 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 peu, en fait, de vrais souvenirs avec mon papa, qui venait de mourir, j'ai rallongé la sauce.
Rallongé la sauce ?
J'ai inventé 1000 anecdotes. Pendant cet été-là, que j'ai commencé à raconter à mes copains dans un club de voile en Irlande, et ça les faisait rire, alors que papa venait de mourir, et tout le monde riait beaucoup. Et quand je suis rentré en France, j'avais un père idéal.
Mais c'était une façon peut-être de lui rendre hommage, non ? Votre père qui était, il faut le dire, Pascal Jardin, écrivain, scénariste pour Claude Sautet, Claude Zidi, René Clément, Bernard Bordery, c'était un personnage, lui, pour le coup.
Non, c'était une personne.
C'est vrai ?
Qui était beaucoup plus intéressante que le personnage que j'en ai fait. Et c'est tout le problème du mensonge. Je veux dire, lorsque Romain Gary ment, lorsqu'il raconte ce livre absolument génial, où sa mère lui envoie des lettres.
Ça y est, ça m'échappe.
Son grand livre. Évidemment qu'il ment. Mais simplement, il n'en
a... La promesse de l'aube.
La promesse de l'aube. Évidemment qu'il ment. Mais il ne voit pas sa beauté. Elle est suffisante. C'est un héros de guerre inouï.
Ouais.
C'est un type qui s'est battu en tant... Et il ne voit tellement pas sa beauté qu'il va passer toute sa vie à mentir. Et il va finir avec un coup de fusil dans la bouche. Ouais. Et j'ai pas voulu ça.
Il se trouve, Alexandre Jardin, que lors de ce voyage en Irlande, vous découvrez l'une des vertus de l'écriture. J'aimerais, si vous voulez bien, lire un court extrait de votre livre. Pour la première fois, écrire me sauve de justesse de la noyade. Son odeur s'évapore déjà de ces pulls verts que j'ai emportés dans mon sac de voyage et que je respire chaque soir. S'il existe un substitut à l'amour, c'est bien la mémoire. Graver le passé rétablit des bribes de l'intimité. Fébrilement, je remplace donc mon papa réel par des notes de flashback que j'enserre dans un dossier vert en carton. D'emblée, l'écriture m'apparaît comme une faculté digestive de ce qui me dévaste, une façon d'encapsuler mon amour pour le mettre à l'abri du temps. Déjà, ma mémoire défaille sur des épisodes fugitifs, même si je consigne tout. À la volée, je remplis de mots chauds le vide polaire qui m'envahit. Très vite, au fond de l'Irlande brumeuse, je m'aperçois que je ne dispose que d'un minuscule pactole de souvenirs avec lui. Pascal Jardin fut en vérité un grand absent pour moi, trop inodore pour rivaliser avec ses amantes somptueuses et les fauves mythiques du cinéma français qu'il alimentait en dialogue juste ou hilarant. De quoi l'écriture sauve-t-elle, en fin de compte, Alexandre ?
Ben, à l'époque, en tout cas pour moi, de la mort. Et... Mais du coup, on devient remplaciste. On remplace tout. On met à la place du réel autre chose. Et quand ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai écrit mon premier livre, là, il est arrivé le pire pour moi. Ça a marché.
Oui.
Et puis le deuxième, ça a marché. Et le troisième, ça a marché.
Mais vous aviez toujours la même chaleur quand vous écriviez, en trouvant ces mots?
C'était le seul espace où j'avais accès à ma vérité, que je ne trouvais pas, que je ne parvenais pas à rejoindre dans ma vie. Quand je suis sorti de mon premier mariage, je me mariais très tôt, la première fois à 23 ans, mon éditrice, qui était une énorme femme alcoolique que j'aimais, qui s'appelait Françoise Verny, qui pesait 120 kilos.
Immense éditrice, s'il en est.
Qui avait une tête de dinosaure. elle est arrivée en bas des marches, elle m'a regardé, elle m'a dit « Chérie, t'y as cru ?» Je venais de dire oui. « Chérie, t'y as cru ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a dit « Pourquoi tu mens ?»
Elle avait tout compris.
Elle a fait partie des gens qui ont essayé de me tirer par la main, vers le réel. Et elle me disait tu ne pourras pas ne pas payer un tribut au réel si un jour tu veux écrire. Et c'est pas parce que tes bouquins cartonnent et que t'es lu par des millions de gens que t'es en train d'écrire. Un jour, il va falloir écrire.
Et être du côté de la vie.
Oui. Et se rejoindre. Mais on met du temps avant de se rejoindre.
Parce que vous écrivez « Poursuivre la falsification de sa vie est un suicide au ralenti ». Quand est-ce que vous avez décidé, en fin de compte, de mettre un terme à cette menace qui vous guette ?
C'est venu par l'engagement civique, citoyen, associatif.
Politique.
Politique. J'ai adoré le réel avec eux, avec tous mes zèbres. C'est-à-dire tous ceux que j'ai appelés les faiseux. Ceux qui réparent la France. Juste avant, vous me parliez de votre père, qui est maire rural.
Oui.
Et qui a pris la décision, vous m'aviez dit, de faire venir 6 migrants.
6 familles.
Oui, 6 familles, en complète. Et ça a bousculé la vie du village.
Oui.
Mais ça l'a revitalisé. Et bien, je connais pas votre papa, mais je connais des dizaines et des dizaines de maires ruraux que j'ai aimés. Parce qu'ils ont tenté des trucs pour essayer de sauver leur bout de territoire, leur petite parcelle de France. Et donc, tous ces gens, que ce soit des maires, des militants associatifs, des gens de l'économie sociale et solidaire, j'ai aimé me battre avec eux, j'ai aimé installer Lire et Faire Lire. Parce que aujourd'hui, on fait pour de vrai lire 700 000 enfants.
Et ça fait enlever, ça, cette menace du suicide qui vous guettait?
Ça m'a réconcilié.
Ouais. La mort.
Avec le réel.
Alexandre Jardin, la mort qui a si souvent frappé à la porte de votre famille, elle représente quoi aujourd'hui pour vous? Elle vous fait peur?
Non, moi je mourrais vieux.
Vous le savez.
Oui. Ah oui, je fais ce qu'il faut. Ce bouquin en fait partie. Je vais pas mourir, moi. J'ai pas pris un ticket pour ça.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites, là?
Oui, oui.
En tout cas, ça vous fait pas peur?
Non, parce que je fais ce qu'il faut. Gary, il n'a pas fait ce qu'il faut. Aragon, il n'a pas fait ce qu'il faut à la fin de sa vie. À un moment, si vous ne vous rejoignez pas, vous êtes en danger, quoi. C'est extrêmement dangereux d'être un faussaire.
Vous savez que ma radio n'est pas filmée, Alexandre.
Oui, je me suis pas posé la question.
Donc, du coup, les auditeurs peuvent avoir l'émotion qu'il y a dans vos yeux, par exemple. Vous savez que par conséquent, je vais devoir vous décrire à un moment donné de cette émission. Et que je vais me demander à quoi vous ressemblez, tiens. Vous savez ce que je vais dire, je crois? Que vous ressemblez à un jardin extraordinaire. On écoute Charles Trenet, en 1957. Vous êtes sur France Inter avec Alexandre Jardin. Vous écoutez Boomerang.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction, maman, dans ce jardin extraordinaire. Je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans. Qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on est sur un jardin à l'anglaise, un petit peu broussailleux, vous savez, surtout au niveau des sourcils. Un jardin généreux, en apparence non domestiqué, à l'image de son cheveu poivre et sel, peigné herbe folle. Mystérieux aussi, comme en témoigne son regard insondable, comme la surface d'un étang bordé de roseaux sur lequel glissent des cols verts. Tout en lui donne envie de se perdre dans le dédale sinueux et ombragé de sa pensée et de son verbe. Avec sa vareuse bleu marine ce matin et son casque vissé sur la tête, l'écrivain Alexandre Jardin, invité de Boomerang pour le roman vrai d'Alexandre, un livre dans lequel vous nous parlez sans cesse en creux d'écriture et vous annoncez sans détour votre aspiration à devenir un autre écrivain, à écrire autrement. Vous écrivez « Je m'apprête à devenir un auteur qui tentera une toute autre littérature, remueuse du réel, interpellante et entichée de la vérité brute des gens aux antipodes de la précédente ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Alexandre ?
À l'exception des gens très bien, j'ai écrit une littérature de fuite du réel. Quand vous écrivez l'île des gauchers, vous foutez le camp très loin. Quand j'écris les coloriers, là, vous réinventez le monde. Quand vous proposez un monde absolument merveilleux avec Fanfan, les coloriers, le zèbre, Mlle Liberté, etc., les double cœurs, vous êtes en fuite. Ça n'existe pas, tout ça. Vous proposez un réel de substitution. Aujourd'hui, profondément, après des années et des années de militantisme, ce qui m'intéresse, c'est la littérature du réel.
Une littérature tournée vers les autres, oui, en fin de compte.
Totalement. Et leur puissance romanesque. On parlait de l'initiative de votre papa, dans ce village. Il se comporte en héros.
Ouais. Oh, enfin, ouais.
Non, mais
je il sauve l'école aussi, en l'occurrence. Mais
il sauve l'école. Quoi. Ouais. Oui, mais c'est pas rien de sauver une école. Ouais. C'est un acte fondamental pour une société. Donc la puissance d'héroïsme de notre nation en ce moment, elle n'est pas vue en littérature. Lorsqu'on se tourne vers le réel, en général, c'est de manière misérabiliste. C'est comme si l'héroïsme profond de notre société ne rejoignait pas la littérature, alors qu'au XIXe siècle, quand Hugo écrit Les Misérables et tout ça, il prend en charge l'héroïsme de notre peuple.
Mais ça veut dire qu'avant, en fait, les autres ne vous intéressaient pas?
Je fuyais le réel, alors que je m'occupais des autres toute la journée. Et donc, il y avait un truc qui devait exploser.
Une littérature citoyenne, oui, en fin de compte.
Bien sûr.
Ça a un sens, ça.
Ah oui. Mais Les Misérables, c'est quoi?
Littérature de combat.
Oui. Mais Zola, c'est quoi? Ça fait partie des gens qui nous ont aidés à penser notre folie républicaine.
Et vous avez envie d'en parler, hein. Votre livre, notamment, parle des Gilets jaunes.
Bien sûr.
Quand vous regardez la France d'aujourd'hui, vous voyez quoi et surtout quel roman elle vous invite à écrire?
Je vois un pays d'abord totalement génial. Parce que plus les gens sont acculés, plus ils sont dans la merde, plus ils sont dans des tensions insupportables, plus ils inventent.
Vous voyez un roman, en fait. Le prochain qui sera enfin le roman vrai.
Celui de l'écrivain que j'ai envie de devenir. Mais ça a mis du temps, quoi. Ça a vraiment mis du temps. Alors, ça veut pas dire que je crache sur les précédents. Mais simplement, ils ne me concernent plus. Même s'ils peuvent concerner les gens. Je vous disais, j'ai croisé samedi une serveuse d'un resto qui m'a dit, mais vous pouvez raconter ce que vous voulez. Moi, quand je tombe amoureuse d'un homme, je lui donne à chaque fois Mademoiselle Liberté pour lui faire comprendre ce que j'attends. Et je vous jure que le prochain, quoi que vous racontiez, je lui donnerai Mademoiselle Liberté. Parce que c'est mon rapport. Ou sur les réseaux, il y a un type qui m'a dit, mais même si vous dites que vous avez inventé le Zubial, votre père. Et moi, je l'ai rencontré dans le livre. Et c'est un homme important.
Vous nous avez confié un secret, Alexandre Jardin, ce matin. C'est l'instant masterclass de cette émission, en fin de compte. C'est un secret dont vous n'avez jamais parlé à personne.
Non, pas aussi.
Vous l'avez écrit. On vous écoute.
Quand j'écris un livre ou un film, j'y jette toute ma vérité avec l'obsession de distinguer le sujet de l'intrigue. Le sujet est ce qui prend le cœur. L'intrigue est ce qui captive l'intérêt. Ça n'a rien à voir. Le sujet est ce dont je parle en vérité. L'intrigue est ce que je donne à voir. Quand j'ai écrit des gens très bien, j'ai évoqué crûment le cas de mon grand-père Colabo, directeur de cabinet de Pierre Laval le jour de la rafle du Veldiv. En vérité, j'écrivais sur la possibilité de dire la vérité en famille. L'intrigue du livre parle de Vichy. Le sujet parle de la possibilité d'être vrai au sein d'une famille. L'intrigue, c'est ce que la somme des péripéties. Le sujet, c'est la raison d'être d'un livre. Le sujet parle à notre psyché, à nos souffrances les plus enfouies. L'intrigue n'est que la mise en scène du sujet. Le sujet répond donc à un besoin très profond, intemporel, ou une souffrance inévitable de l'être humain, l'intrigue à notre soif pascalienne de divertissement. Le sujet a forcément une dimension archétypale universelle, l'intrigue une dimension anecdotique. Cyrano de Bergerac n'est pas l'histoire d'un type qui a un grand nez, mais celle d'un homme qui, comme nous tous, a une beauté de cœur qui n'est pas vue et qui en souffre terriblement. Lorsque j'ai écrit le Zubial, j'avais l'air d'écrire un livre sur mon père, c'était l'intrigue. En vérité, j'écrivais sur la possibilité de vivre sans la peur, une aspiration archétypale qu'incarne mon père dans ce livre. Écrire sur un sujet est la seule chose importante. C'est la seule chose qui puisse mettre un texte à l'abri du temps et le rendre peut-être un jour, universel. C'est par le sujet qu'un livre ou un film entre en contact avec la part secrète du lecteur. Aujourd'hui, je publie un livre sur l'histoire de mes mensonges, ça c'est l'intrigue. Le vrai sujet est, devinez-le.
Ah non, Alexandre.
Pas de ça avec nous, il faut aller jusqu'au bout de votre projet et dire toute la vérité. Ça serait quoi le vrai sujet ?
La possibilité sur cette terre d'être absolument réel. C'est possible. On peut s'échapper de tout ce qu'on se raconte sur nous.
En vrai, entre nous deux ?
Oui.
Vous avez menti combien de fois pendant cet entretien ?
0 gramme.
Merci. Alexandre Jardin, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Le roman vrai d'Alexandre, c'est donc aux éditions de l'Observatoire, ça vaut le coup. Merci et merci à toute l'équipe de Boomerang aussi. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre Martinerry, Paul Guillotte et Jean-Baptiste Audibert à lundi, les amis. Tout de suite les médias, Sonia De Villers juste après ça.
Life Vampire Weekend sur France Inter.